RCF. Diacre sur le diocèse de Saint-Étienne, Jean-Louis Raymondier a vraiment vécu son ministère au service du frère, qu'il soit détenu ou migrant. Un ministère qui lui a appris le métier d'adulte, nous dira-t-il avec humour. Jean-Louis Raymondier, bonjour.
Bonjour.
Jean-Louis Raymondier, vous êtes diacre de l'Église catholique sur le diocèse de Saint-Étienne depuis combien d'années ?
Et j'ai été ordonné en juin 90. J'avais 40 ans.
Donc les gens font le calcul pour votre âge d'aujourd'hui. Jean-Louis Raymondier, vous avez été enseignant, professeur de maths en collège.
Ouais.
Et vous avez eu de nombreuses missions sur le diocèse de Saint-Étienne et voire même dans l'Église de France.
Oui, c'est vrai. Ouais.
On y reviendra, mais vous avez été aumônier national des prisons.
Ouais.
Jean-Louis Raymondier, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a amené au diaconat ? Quel est ce parcours de foi qui amène un homme de 40 ans, peu moins peut-être quand vous avez décidé, oui, quand ça a mûri en vous, enseignant, célibataire, et qui décide de faire partie des diacres?
Alors, en fait, j'ai été interpellé à ça. J'avais 34 ans par là, quelque chose comme ça, voilà. À une époque où le diaconat, on n'en parlait pas énormément quand même, c'était le concile avait rétabli ce ministère, mais on en parlait peu. Donc quand on m'a proposé ça, je me demandais ce que c'était. J'étais célibataire, non pas par choix délibéré de m'offrir au Seigneur comme célibataire, mais parce que la vie m'avait amené là, comme ça, voilà, bon. Et ça m'a intéressé de savoir parce que... qu'est-ce que c'est qu'être diacre célibataire, pour le coup? Parce que, en même temps, on me dit, mais tu pourrais être prêtre aussi. Voilà. Bon. Mais je savais pas trop quoi. Hein. Et j'ai rencontré un type qui m'a beaucoup, beaucoup éclairé. C'est Gilles Rebêche. Je suis allé le voir. J'ai cherché un diacre célibataire. J'ai trouvé Gilles. Je suis allé à Toulon. Et ce type, on est resté très en lien depuis. Il était à mon ordination. Enfin, on s'est vu récemment. Voilà. Ça m'a éclairé. Et j'ai compris, en l'écoutant, en le voyant vivre, en le voyant faire, qu'on pouvait être un ministre ordonné, c'est-à-dire quelqu'un qui authentifie l'Église dans les lieux où il est, sans être dans une sacristie.
On peut préciser rapidement, Gilles Rebêche, bon, peut-être tout le monde ne connaît pas Gilles Rebêche, c'est celui qui s'occupe de la diaconie le diocèse de Fréjus-Toulon.
Pour moi, c'est un très bon type. En fait, pourquoi diacre ? Moi, j'aime bien Marcel Perrier, qui a été évêque de Pamiers, et qui est un homme des Alpes, donc c'est un homme de la montagne. Et alors, il expliquait ça, je trouvais ça très très beau. Il dit, quand on marche sur un sentier, comme ça, il y a des cailloux. Et puis de temps en temps, on trouve un caillou avec une petite marque blanche et rouge, comme ça, voilà. Bon. Et c'est pas forcément le plus joli caillou. C'est pas le plus beau, c'est pas le plus gros, c'est pas... Non, mais c'en est un qui est bien placé.
C'est la balise.
Pour indiquer un chemin, voilà. Ah ben, le ministère ordonné, c'est ça, en fait. Voilà. Moi, je suis pas meilleur que les autres, bien au contraire. Vous savez, ce qui est premier pour moi, c'est le baptême. Voilà.
Ouais.
C'est le baptême. Ça, c'est évident. Et puis, parmi les baptisés, qui ont tous reçu l'onction pour annoncer et avoir la grâce pour pouvoir annoncer l'Évangile, parmi ceux-là, on a choisi quelques-uns pour avoir des fonctions particulières, dont dans les ministres ordonnés, les prêtres et les diacres.
Ce qui vous a amené à cette décision, à ce ministère, à cet engagement vraiment de toute une vie, c'est peut-être un parcours de foi. Vous avez été baptisé, bien sûr, enfant. Oui. Vous avez été engagé dans la jeunesse. Vous avez fait partie de mouvements d'église, d'aumônerie.
Alors franchement, c'est vrai que je suis tombé dedans tout petit, sans qu'on me demande mon avis. Bon, voilà. Mais bon, la grâce du baptême a fonctionné malgré moi, quoi. Enfin, bon, voilà. Et puis, une famille chrétienne, oui, voilà, ça c'est vrai. Engagé aussi. Très franchement, j'ai jamais eu trop de crises de rejet. Voilà.
De la région stéphanoise, la famille chrétienne?
Oui. Je suis d'un pays très, très situé. Je suis de Firminy, qui est une ville ouvrière. Enfin, voilà.
À la vallée de London, pour ceux qui connaissent.
Christianisme social. Enfin, ouais, bon, très bien. Et j'ai passé mon bac en 68. Ça vous dit un peu des choses. et pour le coup, dans toute cette mouvance, j'ai été marxiste. Enfin, j'étais comme tout le monde, quoi. Mais
tout le monde aussi.
À cette époque, oui, il fallait. Mais très franchement, la foi m'a jamais quitté. Parfois une fois
toute simple. Il n'y a pas de conflit d'ailleurs.
Non. J'ai même toujours été pratiquant en fait. Voilà. Et j'étais enseignant. Bon alors, en étant enseignant, j'étais
dans le public.
J'étais dans le privé. J'étais enseignement catholique. Mmh. Et naturellement, je suis rentré dans l'aumônerie. Et puis j'étais animateur d'aumônerie. J'étais responsable de l'aumônerie du coin. Enfin voilà. Donc j'étais un peu dedans quelque part. Mmh. C'était pas surprenant à la limite que. Puis vous savez, dans l'église, on est un peu malin. On appelle des types qui ont un peu de disponibilité. Hein. Donc celui-là, il était célibataire, il était un peu engagé. Pourquoi pas lui faire signe. Mais c'est un long chemin. De préparation, parce que moi je suis un peu un télo sur les bords, donc j'ai lu des livres sur le diaconat, je suis allé voir Gilles, j'ai vu d'autres comme ça, puis après je suis allé voir le prêtre en conscience, je lui ai dit, bon ben je suis d'accord, on y va. Et c'est là qu'on m'a dit, mais attends, ça se passe pas comme ça. Hein. et je m'aperçois, parce que j'ai été responsable de la formation des diacres pendant 10 ans, là maintenant, je viens juste de terminer, il faut du temps. Il faut du temps vraiment pour se laisser convertir soi-même au fait que on a à vérifier qu'il y a un appel du Seigneur, mais qu'il y a aussi un appel de l'Église. Il faut que je serve à quelque chose à l'Église. Sans quoi c'est pas la peine. Hein, et puis que ça corresponde quand même à quelque chose de profond en moi et j'y serai heureux. Voilà. Faut tenir les trois. L'appel du Seigneur, le besoin de l'Église et puis ma propre réalisation dans le bonheur. Voilà.
Jean-Louis Raymondier, vous dites oui à cet appel au diaconat.
Oui.
Vous savez qu'une fois ordonné diacre, vous ne pouviez plus, vous étiez célibataire, donc vous deviez rester célibataire.
Au jour de mon ordination, j'ai promis à l'évêque de rester célibataire.
Ça paraît, souvent les diacres sont des hommes mariés aujourd'hui.
Oui.
Et vous, non. Vous êtes pas nombreux dans cette
situation. Je crois que ça fait 8% au niveau national, ouais. Quelque chose comme ça. Et moi, j'y tiens beaucoup.
Ah, vous y tenez beaucoup.
Ouais. Ah oui. Je trouve très, très important. Parce que, je vais vous dire une petite anecdote. Quand je dis, dans les milieux un peu chrétiens, je suis diacre, on me dit, ah, très bien, et votre femme, comment ça va? Voilà. Et alors, ça m'agace prodigieusement. Mais je réponds avec beaucoup de gentillesse. Je tiens beaucoup à ce que dans le diaconat, y ait des célibataires, de manière à ce que ça ne ferme pas la porte, par rapport au ministère presbytéral, à l'ordination d'un marié un jour. Voilà. Et je trouve très honnêtement que chacun a sa place là-dedans. Et que si on avait que des diacres mariés et des prêtres célibataires, eh ben on a une espèce d'amputation dans le ministère qui me semblerait dangereuse.
Vous dissociez le ministère de la situation matrimoniale.
Ah oui, tout à fait. Les prêtres maronites, par exemple, ouais. Ça semble pas poser énormément de problèmes.
Chez nos frères réformés, luthériens. Ben,
voilà, c'est autre chose, ils sont pas prêtres. Si je prends, par exemple, les anglicans qu'on a récupérés, ça semble pas poser des problèmes énormes. Alors, c'est vrai que ça peut poser des problèmes au niveau des héritages, plein de choses, mais c'est matériel.
Et
ça.
La disponibilité aussi. Vous étiez plus disponible en étant célibataire.
Oui, mais alors est-ce que le ministère ordonné doit être confié à des hommes qui sont taillables et corvéables à merci, ou est-ce que on doit plutôt choisir des gens qui sont bien là où ils sont, comme des signes de ce qu'ils sont?
Et des diacres femmes?
Alors, vous savez, là,
on va pas lancer le débat maintenant. Alors,
oui, mais on va pas lancer le débat, mais honnêtement, la question est pas tranchée, voilà. Il y a des grandes discussions au niveau de l'écriture, de savoir si elles étaient vraiment ordonnées, les premières diaconesses, etc. Mais la question n'est pas arrêtée, pas tranchée. Vous savez, l'Église, ça a de l'ancienneté, ça tourne lentement. Donc, j'allais dire, mes petits-enfants verront des choses, mais comme je n'ai pas d'enfants, ça va être difficile pour eux.
Témoin quand la foi se raconte.
Jean-Louis Raymondier, je rappelle, vous êtes diacre du diocèse de Saint-Étienne, diacre célibataire, on en a parlé, avec de nombreuses missions. Vous étiez enseignant, professeur de maths, et assez naturellement, j'ose dire, vous avez été responsable de la pastorale scolaire. Vous avez été également délégué à la solidarité. Vous êtes occupé d'une démarche synodale sur le diocèse de Saint-Étienne, avec beaucoup de tâches administratives qui vous ont peut-être un petit peu ennuyé au bout d'un moment, parce que c'est pas toujours agréable. Et vous avez été aussi aumônier de prison pendant 13 ans. même aumônier national, et enfin, vous avez été en lien avec le monde de la justice, forcément. Dans toutes ces missions, quelle est celle que vous avez envie de retenir, parce qu'elles vous ont toutes pris beaucoup, à plein temps, en même temps, pendant que vous étiez encore enseignant. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces missions?
Alors d'abord, j'ai eu la chance de faire la moitié de ma carrière à plein temps, professionnel, d'enseignant, et puis la deuxième moitié à mi-temps.
D'accord. Voilà.
Et c'est pendant cette époque où j'étais à mi-temps que j'ai pu faire quand même pas mal de choses, effectivement. Moi, je trouve que le ministère donne des chances inouïes de faire des choses passionnantes que je n'aurais jamais pu faire, de rencontrer des gens différents, de faire des choses... au-delà des capacités qu'on peut avoir, voilà, il y a une confiance énorme de l'Église par rapport aux chrétiens qu'elle embauche. Voilà. Et donc, moi, ça, effectivement, j'ai eu des responsabilités organisationnelles, et puis j'ai eu des parts de mon ministère qui étaient de rencontre des personnes. Enfin, voilà. Et alors, bon, je vous surprendrai pas si je vous dis que aumônier de prison, c'est quelque chose qui prend quand même l'individu, ça c'est sûr. Moi, dans ce ministère-là, je dis toujours que j'ai un peu appris mon métier d'homme, un petit peu. Hein, j'ai un petit peu appris ce que c'était qu'être adulte, un petit peu. Hein.
Qu'est-ce que c'est le métier d'homme?
C'est loin d'être fini. Hein. Ben, c'est de savoir qu'on est des êtres très limités. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Bon, et de pas se surestimer. Voilà. Mais en même temps. Ça m'a appris beaucoup, j'allais dire, ça m'a rendu croyant, quoi. Hein, voilà.
Vous n'étiez pas assez?
Je l'étais sûrement mal. Je le suis
on
toujours.
On est tous mal.
Je le suis toujours aussi mal, mais j'ai perçu des transformations. C'est-à-dire que dans ce ministère, j'ai découvert que en chaque individu, il y avait une présence de Dieu. Voilà. Quand on dit tout homme est une image sacrée. L'homme est un image de... On ne dit pas tout chrétien est une image sacrée.
Tout homme, oui.
Tout homme. Donc, dans mon ministère d'aumônier de prison, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. C'est-à-dire que quand je rencontre un type, je dois chercher en lui où est la présence de Dieu. Alors pour moi, au niveau de ma foi, ça a été énorme, quoi. Enfin, je ne vous cacherai pas qu'au niveau de ma spiritualité, l'adoration du Saint-Sacrement, ce n'est pas mon activité principale. Mais j'adore le Saint-Sacrement chez les autres. Voilà. C'est-à-dire que je pense que les hommes et les femmes que j'ai rencontrés en prison, mais ailleurs, sont des tabernacles ambulants, quoi. J'ai à découvrir le Seigneur en eux. Mmh. Voilà. Et très honnêtement, c'est quelque chose qui me fait marcher, qui me fait vivre. Voilà, ça. Voilà. Bon, alors ça, c'est idyllique, hein, ce que je dis. Hein. Faut pas croire que, par exemple, celui qui est en train de m'interviewer, je le regarde. Mais si, il y a un a priori. Il faut avoir un a priori, quoi. C'est de se dire, celui-là, là où il en est, je pourrais être à sa place. Et ça, en prison, c'est terrible, quoi. Hein. J'avais un collègue aumônier qui disait, entre lui et moi, il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, quoi. Pourquoi lui, il est tombé, pas moi? Voilà. Bon. On dit pas un criminel, on dit un homme qui a tué quelqu'un, quoi. Mais tuer quelqu'un, ça prend pas beaucoup de temps dans une vie, hein. Mmh. Et tout le reste de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a été? Voilà. Qu'est-ce qui a fait que cette pépite de Dieu qui est en lui a été ensevelie sous des monceaux de saleté et de saloperie? Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Et de l'aider, non pas d'enlever toutes ces saletés pour arriver à cette pépite, parce que je peux rien y faire, mais que je l'accompagne dans ce chemin que lui peut avoir pour retrouver en lui cette dimension divine. Alors, il ne l'appellera pas comme ça, mais que lui est plus grand que lui-même.
Il faut parfois puiser très profond.
Moi, je suis un disciple du samedi saint. Il est descendu aux enfers. On ne sait pas trop ce que c'est, les enfers. Hein. Ouais. Mais le Christ est descendu au plus bas du plus bas de l'humanité. Là où se trouve toute la... Enfin, je ne veux pas être vulgaire. Et c'est là qu'il est, et c'est de là qu'il remonte, en nous prenant la main. Voilà. Et moi, vivre le samedi saint en prison, pour moi, c'était une expérience unique. Parce que je me disais, c'est là qu'est le Christ, profondément. Et c'est là qu'il vient chercher chacun. Et alors, moi, je ne suis peut-être pas complètement en bas, mais je ne suis pas loin du bas complet. Mais en chemin, il peut me prendre la main et me remonter avec, quoi. C'est ça, ma spiritualité profonde, en fait.
Jean-Louis Raimondi, je disais tout à l'heure, vous avez été délégué à la solidarité. Est-ce qu'on peut pas dire que finalement, c'est ce qui regroupe l'ensemble de vos ministères? C'est toujours être solidaire, proche, du plus petit.
Moi, je, si vous voulez, je dis que l'Église, elle a besoin, elle a aussi besoin d'organisation. Donc, quand j'étais aumônier général des prisons, ben, je faisais de l'organisation, je gérais des difficultés à certains endroits, etc. Bon, quand j'étais secrétaire général de l'opération de renouvellement diocésaine, je gérais de il le faut, ça, il y en a besoin. Voilà. Mais il faut jamais oublier que c'est pas ça qui est le cœur. Le pape le dit beaucoup, hein. Le discours du pape aux cardinaux, c'est remarquable. Hein, c'est bon, occupez-vous de ces choses-là, mais pensez toujours quand même aux plus petits, quoi. Enfin,
ouais,
voilà.
Ouais.
Et ça, les diacres, les prêtres sont pas meilleurs que les autres là-dedans. Ils sont pas meilleurs que les autres. Mais quelque part, voilà, je parlais de du coup de couleur sur le caillou. Moi, j'ai un petit coup de fluo sur mon front, quoi. C'est-à-dire que si lui le dit, si lui le fait, ça veut peut-être dire quelque chose. Enfin, voilà.
Vous êtes là comme un rappel à tous ceux à qui vous parlez. N'oublions pas l'humain, n'oublions pas. Voilà. Parce que pas forcément le Fils de Dieu, puisque vous êtes dans un monde laïque, en prison, par essence.
Mais j'ai été délégué du procureur pendant 10 ans. Voilà. Donc là, c'est un lieu éminemment laïque. Hein.
Faut
pas bouger une oreille pour montrer qu'on est catho là-dedans. Hein. Bon, voilà. Mais j'avais énormément conscience d'être vraiment quelque chose qui signifiait quelque chose. Quelqu'un qui signifiait quelque chose. Tout le monde savait que j'étais diacre. Hein. Ça, c'est, puis je l'ai jamais caché. Jamais caché. Mais j'en ai jamais fait.
C'est pas votre étendard.
Non, puis aucun prosélytisme. Mais n'empêche que on est observé dans nos réactions, dans notre manière de faire. Et notamment de rendre la justice, entre autres. Hein. Voilà. Ça, je trouve ça passionnant. Ça, je trouve ça passionnant, de rencontrer les gens. Voilà, les gens. Alors, c'est marrant, Mélenchon dit toujours les gens. Alors, bon, moi, je suis pas forcément mélenchonien, mais je trouve, c'est intéressant, les gens. On dit toujours les hommes et les femmes, etc. Les gens, ça veut dire tout le monde, quoi. C'est beau, tout le monde, quoi.
Les personnes seraient pas plus justes.
Ah, les gens, je trouve, c'est beau, les gens. Les gens, c'est tout le monde, c'est celui que je trouve dans la rue, etc., etc. Et c'est de ces gens-là que je fais des personnes. Enfin, c'est chez ces gens-là que je vois les personnes.
Louis-Marie Lacroix.
Jean-Raymond dit, on vient de parler de vos ministères, et notamment du principal, j'ose le dire, hein, celui de l'aumônier de prison qui a quand même pris 16 ans de votre vie, 13 ans, pardon, de votre vie, et qui vous a beaucoup marqué. Vous dites que ça vous a permis d'être adulte. Je retiens cette expression, ce trait.
Ça m'a pas permis d'être adulte, ça m'a un peu appris le métier d'adulte.
Oui, c'est mieux.
Mais c'est pas terminé.
C'est plus juste.
Et le problème, c'est qu'on meurt sans l'être.
Et aujourd'hui, vous avez deux missions, on peut dire. L'une qui s'occupe des migrants, et on appelle Église et Migration. Vous m'expliquerez pourquoi vous tenez plutôt à ces deux mots. Et puis, vous êtes aussi sur un sujet délicat dont on a beaucoup parlé l'année dernière, délégué à la protection des mineurs, et notamment concernant les abus sur ces mineurs. On va en dire un petit mot, mais c'est quand même une tâche pas difficile, et qui finalement, en lien avec, lorsque vous étiez au milieu de prison, que vous avez rencontré certainement des criminels pédophiles.
Oui. Alors ça, c'est vrai que c'est un ministère qui est un peu récent, hein, parce que qui date de cette énorme affaire de découvrir que dans l'Église il y a eu des crimes épouvantables. Voilà. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'années, c'était l'ancien évêque qui m'a demandé de suivre un peu ces questions. Voilà. Là aussi, la rencontre des personnes dans leurs blessures profondes. Voilà. Moi, j'avais, comme aumônier de prison, j'avais rencontré des hommes blessés. Parce qu'ils avaient commis. Parce qu'on n'en sort pas indemne de commettre quelque chose comme ça. Et j'ai découvert, effectivement, la blessure profonde que peuvent ressentir des personnes victimes au bout de X années, X décennies, d'être marquées à tout jamais dans sa chair. Voilà. Donc voilà, ça c'est effectivement une partie de mon ministère. Et je l'exerce surtout dans la prévention. Notre travail aujourd'hui dans l'Église, c'est de faire en sorte que, le pape disait, faire une maison sûre, essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus sûre possible. Voilà. Parce qu'on est dans une société où, hélas, ces crimes existent. Et je pense qu'ils existeront toujours à cause de notre faiblesse humaine. Mais autant faire que dans notre institution, on s'organise. on s'éduque les uns les autres pour limiter le plus possible ce cataclysme. Moi, j'appelle ça un cataclysme. Quoi, voilà.
Jean-Louis Raymond, comment on fait quand on est face à cette horreur, enfin, le mal, qu'est-ce qui vous aide?
C'est-à-dire, c'est...
Qu'est-ce qui vous a aidé et qu'est-ce qui vous aide encore?
Je pense que le mal demeure le mystère, de toute façon. Et en face de quelqu'un qui a commis le mal quasi absolu, on n'a aucune explication. Donc, dans mon ministère, auprès des gens qui avaient commis des crimes sexuels, les écouter, souvent dans leur déni, parce que le déni était pour eux la seule manière de continuer à exister.
Ouais.
Voilà. C'est-à-dire que la réalité est tellement horrible que si je me la projette et si je la regarde, je ne peux plus exister. Donc, écouter l'autre dans son déni sans pour autant l'approuver, mais en essayant de l'aider à trouver ce qui est grand en lui et qui pourra l'aider à accepter ce qu'il est. C'est-à-dire, on ne peut accepter ce qu'on est dans sa bassesse totale que si on découvre en soi quelque chose qui est beaucoup plus grand. Voilà. Donc tout mon ministère, en fait, c'est ça, en fait. Ça n'est pas autre chose.
Mais j'ai envie d'aller plus loin, Jean-Louis Raymond. Oui. Où est-ce que vous trouviez l'énergie pour répondre, écouter?
Je vais
la prière,
dire,
peut-être.
Quand l'évêque m'a demandé d'être au milieu de prison, je me rappelle bien, c'était un vendredi, j'étais au conseil épiscopal, et c'est à la pause, on buvait le café, il me dit, tu voudrais toujours aller quelque part, voir les bâches, si t'allais faire ça. J'ai cru que le monde s'écroulait autour de moi, j'ai dit, mais il est fou. Et je lui ai dit, écoutez.
C'était le Père Jouatant,
oui, c'était le Père Jouatant. Ouais. J'ai dit, je vais réfléchir. Voilà. J'ai pas dormi de la nuit. Je me voyais derrière des barreaux avec des gros costauds, tatoués de partout, qui me tapaient dessus, enfin bon, voilà. Et, donc, je l'ai appelé le lendemain matin, et je lui ai dit, je vous donne ma réponse. Il me dit, mais ça presse pas. Je lui dis oui, parce que si j'attends trop, je vous dirai non. Voilà. Et honnêtement, j'ai pas découvert les gros costauds, en fait. J'ai découvert une misère noire.
Ouais.
Noire.
Des gens finalement assez fragiles.
Une pauvreté, une misère pas possible, et notamment psychiatrique. Et en face de ça, on se sent soi-même petit. On fait pas le malin, on fait pas le grand, quoi. Enfin, voilà. Et où est-ce que j'ai trouvé l'énergie d'être avec? Mais... c'est pas énorme, hein, parce que c'est des hommes avec des hommes. Très honnêtement, moi j'ai appris de certains types beaucoup, hein. Ils m'ont apporté beaucoup, j'ai appris. Je les glorifie pas, je les sanctifie pas, je les canonise pas, mais j'ai appris en humanité. Quand je voyais un type, par exemple, qui venait de faire 48 heures de garde à vue, pressé, hein, par la police, comme ça, qui arrivait crade, avec tout transpireux, et qui arrivait dans une cellule d'arrivant. Vous savez, une cellule d'arrivant, c'est celle dont personne ne s'occupe. Le lavabo bouché, le chiotte bouché, etc. Et le type qui se dit, avec ce que j'ai fait, on m'a dit que j'en avais pour 15 ans, 20 ans. J'arrive là-dedans, je viens de vivre ça, je sais que je vais y rester pendant 15, 20 ans, et je me suicide pas. Bon, ben voilà, ils m'apprennent, ces gens-là, m'apprennent que même en moi, il y a une capacité de vie qui est plus grande que moi. Voilà. Donc j'ai pas besoin d'être super fort pour être avec eux, parce que c'est là que je vais apprendre la vie. Voilà. Et puis bien sûr la prière, quand même. J'avais un collègue aumônier qui disait ça, je trouvais que c'était pas, après j'avais pris son idée, c'était pas idiot. Vous savez, quand on va en prison pour rentrer à la cellule, on frappe deux coups après la porte, parce que c'est très curieux, hein, de rentrer chez les gens, d'avoir la clé des gens. Essayez de réfléchir à ça, hein. Vous allez voir quelqu'un, c'est vous qui avez la clé, lui il est fermé dedans, et vous ouvrez la porte pour rentrer chez lui. Il y a une espèce d'intrusion qui est impensable, impensable. Donc, les aumôniers de prison, on les reconnaît au fait qu'ils frappent à la porte avant d'ouvrir. Voilà. Et en même temps que je frappais à la porte, je disais, Seigneur, rentre avec moi. Voilà. Donc, on rentrait à deux.
Alors, je disais, aujourd'hui, vous avez deux missions. Donc, on a parlé rapidement de cette déléguée à la protection des mineurs. Et puis, celle concernant Église et migration. On dit plus pastoral des migrants aujourd'hui?
Dans notre diocèse, on a fait ce choix avec l'évêque. Pastoral des migrants, si vous voulez, ça englobe...
Donc l'évêque aujourd'hui, Monseigneur Sylvain Bataille.
Voilà, c'est ça. Quand il m'a confié cette mission, on a réfléchi un petit peu à quelle orientation on voulait donner. Pastoral des migrants, ça englobe par exemple les communautés catholiques étrangères. Voilà. Chez nous, par exemple, il y a des Portugais, il y a des Italiens, il y a des Polonais, etc. Qui sont des communautés chrétiennes installées depuis très longtemps, qui ont leur propre vie. Voilà. Bon. On s'est dit que c'était important qu'elles existent, mais que aujourd'hui, peut-être que l'Église, elle avait à être présente davantage dans ceux qui sont demandeurs d'asile, ceux qui arrivent maintenant, les migrants d'aujourd'hui, quoi, voilà, qui sont pas forcément catholiques.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Qui sont pas forcément catholiques. Et donc, pourquoi Église, émigration avec un S, c'est ça le titre de notre antenne, qui fait partie du pôle diaconie de notre Église, hein. C'est à l'intérieur du pôle diaconie. Donc ça dit des choses quand même, hein. Voilà, on se situe dans le pôle diaconie, on est l'antenne Église et Migration, et notre travail majeur est de soutenir les chrétiens engagés sur ces terrains, de faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus, et de sensibiliser les communautés chrétiennes au fait que, comme le dit le pape dans la journée mondiale du migrant et du réfugié qu'on va célébrer le 25 septembre, on ne peut pas construire l'avenir sans eux. Mmh. Et tout notre travail, c'est de convertir sans violence les communautés chrétiennes à ça, mais non pas en leur disant « c'est votre devoir de chrétien » ou « si vous ne le faites pas, vous allez vous faire envahir », mais en leur disant « vivre avec eux, ça peut être très heureux ». Et on travaille beaucoup sur le témoignage de gens qui font des choses avec des personnes migrantes.
Plutôt que de craindre l'envahissement, c'est voilà, faciliter l'accueil.
Voilà. Si on pouvait remplacer tout ça par le grand remplacement de l'amour, ça serait pas mal.
Diaconie, c'est le service du frère. On est vraiment dans le service du frère.
Tout à fait, tout à fait. Vous voyez bien l'angle d'attaque qu'on a pris, en fait, hein. C'est-à-dire, c'est l'accueil du migrant, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, mais parce que c'est un frère en humanité. Voilà. Et qu'on doit tout faire pour lui permettre, non pas d'être assimilé, mais de s'intégrer comme un homme et une femme qui est né sur cette terre.
Il y a quand même, la tâche est immense par rapport à ces migrants. On a l'impression d'être débordé.
C'est ce que disent
les gens qui sont qui s'affolent. Et en même temps, quelle est la tâche, aussi modeste soit-elle, qu'on peut accomplir face à cette question de migration?
Moi, j'ai bien aimé, vous savez, dans l'homélie du 15 août à Lourdes, le cardinal Ricard a dit il y a des contingences administratives, politiques, qu'on ne peut pas dépasser. Mais ça n'empêche pas qu'on s'engage. Voilà. Donc, moi, si on me dit, si on les prenait tous, mais la question, elle n'est pas là. C'est toi, qu'est-ce que tu fais là où tu es? Voilà. Or, qu'est-ce que je vois dans le pays de mon diocèse? Il y a plein d'associations.
Je rappelle Saint-Étienne.
Saint-Étienne.
Mission en cours de route.
Le plus beau diocèse de France. sur le territoire de notre diocèse, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations qui ont créé des systèmes de parrainage de familles de demandeurs d'asile. Voilà. Et qu'est-ce que font ces gens? Eh bien, ils les aident à s'intégrer, mais non pas en faisant en sorte qu'ils trouvent des papiers, etc. Bien sûr, ça, il faut le faire. Mais aussi en vivant avec eux, en partageant avec eux des loisirs. J'étais hier avec une famille qui est partie en Albanie avec une famille albanaise et qui en est revenue en disant « mais j'ai découvert le pays parce qu'on était dans les familles, c'était super, et c'est eux qui ont pu nous l'offrir. » Voilà.
Bref, les tâches ne manquent pas, l'émission touche à sa fin. Jean-Louis Raymondier, pour conclure, j'aimerais que vous me disiez une parole d'évangile qui vous, aujourd'hui, vous parle, spécialement en ce moment, en 2022.
Alors, dans mon ministère, j'aime bien célébrer des funérailles. C'est curieux, hein, mais parce que là, il y a une vraie rencontre avec des gens. Bon, il faut être honnête, hein, funérailles à l'église, c'est pas que des cathos, hein, il s'en faut. Bon, mais là, on écoute un peu la détresse et la misère des gens, enfin leur peine, leur souffrance. Et alors, pour les funérailles, dans le rituel, il y a cette belle phrase de Job, c'est « Je crois que mon sauveur est vivant et qu'au dernier jour, je surgirai de la terre », etc. Ben voilà, ma phrase, c'est ça, c'est-à-dire, moi, vous savez, c'est le pari de Pascal, hein. Très honnêtement, croire, c'est une joie énorme. Bon. Et même s'il n'y avait rien derrière, ce que j'aurais vécu en croyant, et la joie de croire, vous n'imaginez pas ce que ça peut être. »